Donc bonjour, bienvenue donc au Carrefour numérique, à la Cité des sciences et de l'industrie. Nous sommes donc dans une thématique logiciel libre en partage et nous organisons donc une table ronde autour des métiers du logiciel libre. Métiers du logiciel libre, tout le monde, enfin j'espère que peut-être on introduira un tout petit peu en disant peut-être ce que c'est qu'un logiciel libre. Je pense que quelque part, ce sera important de le redéfinir pour un certain nombre. Et puis ensuite, très rapidement, se lancer plus sur la problématique justement, bon, bah de quels sont les métiers, quelles sont les activités économiques qui tournent autour du logiciel libre, donc qui génèrent du travail et donc aussi des salaires, etc. Voilà. Alors pour cette table ronde, nous avons donc avec nous donc trois intervenants. Donc, dont Diane Revillard, donc, qui a été fondatrice de la société d'IMARC et auteur du livre blanc sur le logiciel libre. Jérémy Zimmermann, un développeur, lui, enfin pas développeur, excusez-moi, un conseil en logiciel libre. Qui définira lui-même beaucoup mieux que moi ce qu'il fait et son activité, mais disons indépendant. Et Laurent Pierre, qui est donc lui ingénieur chef de projet pour une société de développement de logiciels libres qui s'appelle l'Inagora. Voilà, donc pour démarrer, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut en quelques mots définir le cadre d'un logiciel libre, déjà ce que c'est, d'une manière simple. Jérémy? Bon, ben écoute, je te laisse la parole.
Bonjour, bonsoir. Bon, alors effectivement, comme l'a rappelé Thomas, je pense que tout le monde ici doit être plus ou moins familier avec le concept de logiciel libre, mais bon, on va quand même faire un petit rappel. Par définition, un logiciel est considéré comme libre lorsqu'il offre à ses utilisateurs les quatre libertés fondamentales, qui sont la liberté d'utiliser le programme en toutes circonstances, la liberté d'étudier le programme, d'étudier son principe de fonctionnement, d'étudier son code source, la liberté de copier le programme en toutes circonstances, et la liberté de le modifier et de redistribuer ces modifications. Donc ça, c'est les quatre libertés fondamentales historiques du projet GNU. Et donc à partir du moment où un utilisateur a ces quatre libertés sur le logiciel, qui sont formalisées dans le cadre d'un contrat, dit contrat de licence, comme la licence GNU GPL, à partir du moment où l'utilisateur a ces quatre libertés, il peut utiliser le logiciel, il peut avoir sur lui toute la même jouissance qu'en aurait en fait son auteur ou tous ses auteurs, et peut donc aussi bien être utilisateur passif qu'en devenir un acteur, voire même participer activement au développement pour éventuellement un jour devenir chef du projet. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie prédéfinie et chacun peut être à tous les postes dans un logiciel libre. Quelque chose à ajouter?
Oui, donc ensuite, à partir de ça, donc je pensais laisser un peu la parole donc à Diane Revillard, puisqu'elle a écrit le livre blanc du logiciel libre. Elle s'est un petit peu donc intéressée à cet aspect donc économie du logiciel libre et en quoi ça peut apporter quelque chose à l'entreprise. Donc je pense qu'il y a une définition assez simple justement de l'intérêt du logiciel libre pour l'entreprise, sans évidemment peut-être développer sur tous les aspects, mais au moins donner les plus grands traits de cette problématique.
Ce livre blanc, en fait, avait été fait par trois sociétés. Donc aujourd'hui, enfin, je l'ai écrit, mais je veux dire que c'est un travail collaboratif, donc il ne faut pas oublier mes petits camarades. Donc on s'était posé la question en tant que société commerciale de quels sont les services qu'on peut aller proposer en fait au niveau du logiciel libre. Donc le livre blanc a été fait dans ce but, c'était une étude de marché sur le libre. pour voir si déjà les sociétés, en fait, quelle était la maturité du logiciel libre. Donc ça, c'était la première question. On s'est aperçu qu'il y avait des solutions qui étaient très matures au niveau... On est plus tourné, en fait, dans tout ce qui est couche applicative plutôt qu'infrastructure. Donc ce qui nous intéressait, c'était de savoir s'il y avait des applicatifs qui étaient sur lesquels on pouvait développer à terme. Donc la réponse à cette question a été oui. La deuxième interrogation en définitive, c'était donc quels services proposer. Les services qu'on a, on va dire, ciblés, c'est tout ce qui tourne en fait de ce qu'on appelle des services additionnels. Les entreprises ont besoin, même s'il y a une maturité en fait des logiciels, d'avoir en fait un suivi du logiciel, d'avoir en fait de la formation sur du logiciel, d'aller rechercher en fait ces briques et de les assembler. Donc c'est là où il y a de la valeur à créer en fait pour ceux qui veulent aller dans les métiers du libre. C'est-à-dire c'est faire l'interface entre les communautés libres, comme donc fait Jérémy, aller chercher en fait des briques, les assembler, les mettre au métier en fait de l'entreprise et faire toutes les parties formation, traduction, suivi en fait de patch. Tout ça, ça doit être des prestations qui doivent être mutualisées et donc qui sont prises en compte en fait par des sociétés commerciales. Parce que dans la plupart des cas, les sociétés en fait souhaitent conserver ce qu'on a appelé entre guillemets, on va dire, le confort propriétaire. Elles sont prêtes à aller chercher du libre, mais par contre, il faut derrière en fait qu'il y ait un service. Je ne sais pas si j'ai été claire.
Pour moi, c'est assez clair. Maintenant, on peut poser la question, on peut demander au public aussi qui est dans la salle. Donc, si il y a des questions particulières par rapport à cette brève introduction, savoir s'ils ont compris un peu sur quoi reposait le logiciel libre et de quoi on parle, pour être sûr que, au moins dans l'introduction, on est déjà les fondamentaux. Non, bah alors à ce moment-là, je pense que Laurent Pierre, qui nous fait le plaisir d'être là, a franchement une bonne expérience justement de toute la chaîne des métiers qui constituent justement une entreprise de développement de logiciels libres au service d'autres entreprises commanditaires, et qui puisse un peu nous expliquer justement comment se construit finalement un projet d'implantation de logiciels libres dans une entreprise, et en marquant bien les différents éléments qui le constituent, comment ça se passe, comment ça se déroule, comment ça naît, et puis comment ça vit après par la suite. Voilà, ben écoute Laurent.
Bonsoir. Donc, je fais partie d'une société qui s'appelle Linagora, qui fait partie d'un de ces multiples acteurs qui se targuent du label SS2L, donc société de services en logiciel libre. C'est-à-dire ces acteurs qui sont donc des acteurs commerciaux qui font la transition entre des communautés, que ce soit des communautés de développement, des communautés de prosélytisme, de défense du logiciel libre, et des entreprises qui, comme il a été dit précédemment, souhaitent retrouver dans le logiciel libre le confort du logiciel propriétaire. Avoir non seulement un logiciel qui soit le plus adapté à leurs besoins, ce que permet le libre bien mieux que le propriétaire, puisqu'on peut rentrer dans le code du logiciel et l'adapter aussi précisément qu'on veut à un besoin donné, mais qui veulent aussi avoir toute une gamme de services associés, que ce soit des formations, du support, qui soient à la hauteur de ce qu'ils auraient dans le monde propriétaire. Donc Linagora fait partie de ces quelques centaines de SS2L en France. Alors, on a juste la spécificité d'être généraliste, alors que beaucoup d'acteurs SS2L sont un peu plus spécialisés dans un domaine métier ou dans un autre, ce qui nous permet aujourd'hui de voir un petit peu tout ce qui se passe sur le marché et d'avoir des profils très très différents. Dans une société, comme Linagora, on retrouve tous les profils classiques qu'on trouve dans une société de services classique. Que ce soit des chefs de projet, que ce soit des ingénieurs en développement, que ce soit des administrateurs qui vont plutôt s'occuper de la partie intégration. On va retrouver des gens qui ont un peu une double casquette, qui font aussi de la formation. Souvent, ce n'est pas leur métier principal, ils ont l'occasion de participer à des projets, parce qu'ils donnent un peu de valeur ajoutée sur le fait que ils voient comment les produits évoluent chez les clients et ils peuvent du coup former les personnes en accord avec ces évolutions. Et puis, une activité qui est importante aussi, qui est une activité de support. Je pense que c'est ça principalement qui a mis le pied à l'étrier de beaucoup de sociétés dans le monde du libre. Peut-être ça, se dire, ces logiciels, ils ont qualité, les benchmarks montrent que ils ont de bonnes pertes, ils couvrent une bonne gamme fonctionnelle. J'ai des sociétés qui prétendent pouvoir venir me les intégrer et les paramétrer spécifiquement à mon besoin, ou faire un développement à partir de briques libres qui répond à mon besoin. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, comme disait Thomas, j'ai pas envie que ce projet s'arrête. J'ai pas envie que, après avoir clôturé le projet, je dise au revoir à la société qui l'a développé, et que, si jamais j'ai le moindre souci, je veux pouvoir me retourner vers un acteur, sortir de l'impasse. C'est ce qu'ils ont, supports qui viennent avec n'importe quel logiciel propriétaire. Aujourd'hui, dans le monde du libre, il y a une certaine vacuité, puisque aujourd'hui, une communauté ne peut pas être à suivre contraintes commerciales, d'engagement, de résultats, à corriger tous les bugs fournis par telle ou telle société. C'est pas leur travail. Leur travail, c'est de développer des logiciels libres de façon bénévole. On peut pas imposer à un développeur de logiciels libres de, pour demain 8h, avoir développé un patch qui fait ci ou qui fait ça sur son logiciel. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a développé dans différentes SS2L, dans l'Inagora, des offres de services de support. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la particularité et qui fait un métier un petit peu nouveau. C'est que globalement, beaucoup de SS2I font du développement spécifique. Ça existe toujours. Et font de la maintenance sur ces développements spécifiques. Donc aujourd'hui, dans le monde du libre, on en arrive à un métier qui est de faire de la maintenance sur des développements qui n'ont pas été réalisés par nous, puisqu'ils ont été développés par des communautés. Et on sait prendre des engagements au résultat, en disant voilà, si vous nous déclurez OpenOffice, vous savez que d'ici une semaine, il sera corrigé. Donc aujourd'hui, c'est une activité qui commence à prendre de l'ampleur. De plus en plus de clients viennent se raccrocher à ce type de contrat. Vous avez peut-être vu dans la presse informatique que le ministère des Finances a passé le cap déjà, et que d'autres ministères sont en train de s'y mettre. On a récemment eu comme client le ministère de la Défense, les hôpitaux de Paris, etc., etc. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? On a une cellule dans laquelle on a des développeurs, puisque c'est quand même le gros des métiers qui sont les plus proches des communautés. On a une équipe de développeurs qui savent intervenir dans différents logiciels. Et typiquement, le cas que je vous ai donné tout à l'heure est tout à fait concret, puisque ça fait partie de nos tout premiers bugs qui ont été remontés. C'est lorsqu'il y a un bug dans OpenOffice, on ouvre le code d'OpenOffice, on localise l'endroit où ça se trouve, on le corrige. Alors quand je dis ça, je fais des raccourcis énormes, puisque le code d'OpenOffice, c'est quelque chose d'absolument monstrueux, il faut le dire. C'est l'un des plus gros logiciels libres en termes de lignes de code qui existent. Donc, c'est toujours un petit peu moins binaire que cela. On peut se permettre de faire ça sur certains logiciels qui sont relativement simples. Pour d'autres, on va avoir une activité qui, là, est vraiment différente de celle des SS2I classiques, qui est de se mettre en relation avec la communauté et leur dire, voilà, aujourd'hui, on a un bug pour un client. Est-ce que vous pouvez nous aider sur la localisation du problème? Dans quelle partie du code est-ce que ça se trouve? Est-ce que vous êtes intéressé pour participer au développement de ce correctif? Si oui, il peut y avoir un contrat commercial qui se fait avec eux. Mais dans tous les cas, l'engagement est porté par la société de service. La communauté, elle, fait ce qu'elle peut dans les moyens qu'elle a. Toujours est-il que, à terme, on essaye le plus possible de rester cohérent avec la logique des communautés, la logique de développement, de façon à ce que tous les correctifs qui vont être apportés soient reversés directement dans le code du logiciel et que le logiciel évolue naturellement. Alors c'est intéressant pour les communautés parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une entreprise quelque part qui passe un contrat de support avec une SS2L et qui va faire corriger des bugs et qui va donc faire travailler des acteurs supplémentaires pour faire avancer le logiciel en question. Et c'est aussi intéressant pour le client parce que il sait que lorsqu'on va développer un correctif, on va le reverser le plus systématiquement possible dans le corps du logiciel, faire en sorte que il n'ait pas un logiciel qui redevient spécifique chez lui parce qu'il y a des patchs qui ont été appliqués qui sont restés en son sein. Non, on fait avancer le logiciel libre qui est sous-jacent, et on s'arrange pour être toujours dans une version complètement standard. Voilà pour faire un premier petit tour d'horizon.
Bon, et maintenant, justement, moi, je me pose un petit peu cette question. Est-ce que, justement, ce principe de reverser les sources est-il systématique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des entreprises qui veulent rester propriétaires, justement, même du développement fait à partir de logiciels libres?
Moi, je peux peut-être répondre. En définitive, ça dépend, je pense, au niveau d'une entreprise, si c'est un processus critique et stratégique. Il semble normal à ce moment-là que ce ne soit pas reversé, en fait. Si c'est une application métier. Si par contre on est en fait sur de la base et ça va être le peu de code qui sera parversé, après si les gens jouent pas le jeu, on va dire que le logiciel libre peut pas se développer non plus. Donc, mais en général, sur la plupart des développements en fait qui sont faits en interne dans l'entreprise, sont pas assez stratégiques et comment dire, pour qu'il n'y ait pas en si vous reversez dans la communauté, ça vous permet aussi de pouvoir bénéficier en fait de tout ce qui va être correction et amélioration derrière. Si vous gardez chez vous, ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, vous ne bénéficiez pas de l'effet en fait recours communauté derrière. Je pense qu'il est important.
Je sais pas ce que. Oui, alors justement, bah, Jérémy, je te vois acquiescer, mais est-ce que tu aurais quelque chose justement à rajouter par rapport à cette notion ? Est-ce que c'est quelque chose qui est important justement dans la négociation avec l'entreprise ?
Oui, je pense que c'est quelque chose de très important, mais effectivement, comme ça vient d'être évoqué, je pense qu'il y a une espèce de dynamique favorable dans le logiciel libre, une espèce de cercle vertueux qui fait que les entreprises ont tout intérêt à reverser ce qui a été fait spécifiquement pour elle. C'est ce qui vient d'être dit, c'est que si on fait un développement spécifique à partir d'un produit standard, le jour où la version suivante sort, si on a reversé, la version suivante intégrera ces modifications, alors que si on a choisi de garder le patch pour soi, la version suivante ne les intégrera pas, il faudra patcher à nouveau. Avec éventuellement, si le logiciel a complètement été modifié d'une version 1. Quelque chose à une version 2.0, avoir à tout reprendre depuis le début pour refaire son patch. Donc c'est intelligent, c'est économe en termes de gestion de ressources, de reverser autant que possible. Et la dynamique du logiciel libre pousse les entreprises à calculer au plus précis justement ce ratio entre la part de code qui est spécifique et stratégique, et la part de code que l'on peut reverser.
Oui, donc par rapport à ça, tout le monde suit. Est-ce qu'il y a des questions particulières qui se posent ? Oui.
J'ai bien compris les mécanismes d'évolution du logiciel, mais si on prend les ressources qui travaillent dessus, fondamentalement, les compétences techniques sont les mêmes que dans le modèle traditionnel. Donc les métiers n'ont pas changé, c'est la mécanique de mise à jour d'évolution qui change. Les métiers techniques derrière sont les mêmes. Un développeur Java, ça va être un développeur Java sur du close ou sur de l'open, ça va être le même.
Écoutez, je pense qu'on va y venir. Tour à tour, on va décrire nos activités. Je vais vous expliquer mon activité à moi, qui est, je pense, intimement dépendante des modes de développement des logiciels libres, à savoir faire de l'intégration en liaison constante avec les équipes de développement. Personnellement, je ne suis pas développeur. Je sais programmer, mais je le fais le moins possible. Et la plus grande partie de mon temps est consacrée à intégrer des objets déjà développés. On parlait de briques tout à l'heure. Personnellement, je passe beaucoup plus de temps à faire du ciment entre des briques ou à empiler les briques elles-mêmes qu'à passer du temps à développer les briques. Et c'est là véritablement que se fait le service du fait même de la nature ouverte de ces briques. Je ne sais pas si ça répond correctement. Voilà.
C'est de l'architecture, en fait.
Exactement.
Oui. C'est aussi un nouveau métier, je pense que vous avez plus de choix parce que vous avez tellement. L'offre libre est très abondante. Donc c'est aussi aller choisir. Ça existe moins, je pense, au niveau du propriétaire. Parce que quand vous voyez tout ce qu'il y a sur. Il y a des logiciels, en fait, très connus. On va reprendre Apache, tout ça, enfin tous les logiciels qui sont les plus connus. Par contre, vous avez des pépites en fait à les trouver dans le libre. Et là, c'est aussi des nouveaux métiers qui n'existent pas en définitive au niveau du propriétaire, qui sont surtout que le logiciel libre est très tourné utilitaire. Puisque en fait, ce sont des gens qui développent pour résoudre souvent des problématiques propres à eux et qui après vont mettre en fait dans les communautés. Donc, alors que dans le cas d'une société, enfin moi j'ai développé en logiciel propriétaire, on est là en définitive pour faire de l'argent, on va dire, et sortir un produit au plus vite. Là aussi, il y a aussi ce qui change dans certainement les comme l'a expliqué en fait Laurent, dans tout ce qui va être logiciel libre, c'est le fait que personne ne peut vous obliger, quand vous êtes en logiciel libre dans une communauté, à le produit n'est pas prêt, il ne sortira pas. Dans une société commerciale, on est sur des... Toute société commerciale est sur de la rentabilité. Il n'y a pas d'autre cas. Donc, si vous avez en fait un produit buggé, il peut sortir. Donc, c'est aussi les grosses différences entre le libre, je pense, et le logiciel en fait propriétaire. C'est tous ces nouveaux métiers qui arrivent en fait aussi d'être pertinents dans le choix qui va être fait des solutions. Et c'est là où il y a de l'expertise métier et logiciel en fait à avoir, qui sont un petit peu moins pointus certainement au niveau du logiciel propriétaire.
Effectivement, j'aurais tendance à dire que, à la base, les compétences informatiques sont à peu près les mêmes, qu'on soit dans le monde du libre ou dans le monde du logiciel propriétaire. Par contre, il y a des habitudes qui sont complètement différentes dans l'un et dans l'autre. Aujourd'hui, on réalisait, un de mes ingénieurs qui était en province, qui réalisait une distribution spécialisée pour un client. Alors, on serait dans le monde propriétaire, il aurait configuré un certain nombre d'outils, il aurait passé un coup de ghost dessus ou assimilé, et il ne serait pas beaucoup plus posé de questions. Aujourd'hui, dans le monde du libre, il a été obligé de choisir les briques qu'il allait mettre en place, les paramétrer assez finement. Et puis, dans le processus de masterisation, donc de création de la distribution spécifique qui va être réinstallée un peu partout sur différents départements, il a eu un bug dans le logiciel. Dans le monde propriétaire, par quoi ça se solde? Bug logiciel, désolé monsieur le client, il y a un bug dans le logiciel, appelez l'éditeur, vous avez du support, débrouillez-vous, moi je suis SS2I, je peux rien y faire. Voilà. Et la prestation s'arrête plus ou moins là. Aujourd'hui, l'ingénieur, il a ouvert le code du logiciel, il a regardé où est-ce que ça plantait, il s'est mis en relation avec les communautés à travers des forums, etc. Il a trouvé un moyen de contournement, il a proposé un patch, il a développé un petit correctif donc pour le client, et aujourd'hui, le projet a pu se terminer avec quelque chose qui fonctionne de bout en bout. Donc c'est vrai que la philosophie, puisque on peut être très facilement en relation directe avec les développeurs du logiciel, et si on a un besoin spécifique, on peut directement rentrer dedans pour l'intégrer. Donc on a des ingénieurs qui... n'hésite plus à ouvrir un logiciel pour voir à l'intérieur comment le triturer pour en faire exactement ce qu'ils en veulent. Et malgré tout, c'est une philosophie qui est complètement différente.
Oui, alors je pense que ça a répondu à une question qui était la question justement de un peu sur les différences entre un développeur logiciel libre et un développeur logiciel propriétaire. C'est sûr que pour ce qui est d'écrire du code, on peut retrouver des problématiques qui sont sensiblement les mêmes. Mis à part quand même un certain nombre de différences qu'on pourrait noter à partir du moment où le logiciel est passé en libre, on peut remarquer qu'il y a aussi quand même un souci de le partager, quoi, au niveau de l'écriture. Et justement, je pense que là-dessus, il y a aussi quelques critères qui peuvent militer dans une qualité du logiciel libre qui serait importante de pouvoir décrire. Alors, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui est plus fort là-dessus que...
Je veux bien en dire quelques mots, puis ensuite vous me reprendrez si jamais j'ai oublié certains points. C'est vrai que, on va prendre un cas concret. Je suis une société, par exemple, qui fait des logiciels de bourse. J'ai eu le cas concret l'année dernière. Je fais des logiciels en Java. J'ai une armée de développeurs qui me sortent une nouvelle version du logiciel, c'est du logiciel propriétaire, donc je n'ai pas besoin de respecter des standards, je n'ai pas besoin de faire du code propre, entre guillemets, je fais du code qui marche pour pouvoir sortir une version dans 6 mois parce que l'équipe marketing a décrété qu'une version devait sortir dans 6 mois pour renouveler le parc de mes utilisateurs. On fait bon an mal an tout ce qu'il faut pour que le code sorte au moment où il faut. Je suis un acteur du libre qui fait un logiciel en Java toujours qui n'a absolument rien à voir avec le monde de la bourse par exemple. Je sais que chaque ligne de code que je vais écrire va pouvoir être relue par potentiellement des milliers de personnes. Je sais que ce logiciel, je vais le développer de façon communautaire, donc avec des gens qui, avec qui je suis en relation par des forums, en relation par des mails ou quoi que ce soit, qui sont pas dans mon bureau, avec lesquels je peux pas inventer une nouvelle spécification comme ça sur un coin de table en disant écoute, tel module, on va le développer comme ci, comme ça. Non, pour développer de façon la plus sereine possible et s'assurer que tout le monde puisse reprendre le code, je suis obligé d'adopter des standards. Je suis obligé de faire des choses qui soient le plus cohérentes possible, le plus propre possible. Et de ce fait, la qualité du code est, elle aussi, à mon avis, assez différente. Voilà, premier point de vue.
Oui, on peut même dire, en fait, bon, quand on ouvre un code, on peut voir rapidement s'il est propre ou non, déjà rien qu'au niveau des variables. Mais là où va aussi intervenir le libre en supplément, c'est le fait que la documentation peut être faite par des gens qui ne vont pas développer. Et donc, quand vous documentez, en fait, un code que vous n'avez pas développé, ça, c'est un plus. Alors qu'en général, dans le monde propriétaire, c'est vous-même qui faites votre documentation. Documentation technique, là, on parle.
Oui, alors là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais bon, vous avez bien dit « peut être ». Et c'est vrai que ce qui fait la force et la richesse du logiciel libre, c'est bien l'incroyable vastesse du panorama, de la palette de logiciels que l'on a à disposition, et des différences fondamentales apparaissent d'un projet à l'autre. Il n'y a pas deux projets qui sont gérés de la même façon, dans lesquels les développeurs participent de la même façon. Et c'est vrai que d'un projet à l'autre, on va voir des changements radicaux en matière de gestion de projet. Parfois, les spécifications auront été écrites sur un coin de table, et même si tous les participants n'auront pas été autour de la table à un instant donné, on en sentira les effets en regardant le code. Parfois, la documentation est faite par les gens qui ont codé quand ils ont fait une documentation, quand il y a une documentation. Donc c'est vrai que tout n'est pas tout rose non plus. Et c'est là aussi un de ces nouveaux rôles, pour ne pas dire métiers, qui viennent s'intégrer dans l'écosystème du logiciel libre. J'aime bien cette notion d'écosystème, et qui rejoint ce travail de défrichage dont on parlait tout à l'heure. Il y a un défrichage au niveau des logiciels, savoir au niveau de l'offre, ce qui existe, ce qui se fait, quels sont les atouts des uns et des autres. Mais le défrichage doit également aller au niveau de la gestion de projet. Et voir entre deux logiciels qui ont l'air équivalents, voir lequel des deux est le mieux géré, lequel des deux a une roadmap qui semble correspondre plutôt à ses attentes, lequel des deux est le mieux documenté, etc. Et ça nécessite peut-être là aussi des compétences un petit peu différentes de celles qui existent avec le logiciel propriétaire.
Oui, moi j'ai pas d'avis à donner sur la qualité des logiciels. Le seul truc, c'est que souvent ce qu'on entend dire d'un logiciel propriétaire qui aurait été abandonné par exemple par son éditeur, c'est qu'on n'a pas accès aux sources et qu'on peut pas réparer les coquilles qu'il y a dedans. Donc ça, c'est aussi un avantage de continuité, de savoir que bon, à chaque fois qu'on reconstruit quelque chose, on reconstruit quelque chose de nouveau, mais qu'on part de bases qui existent déjà, qui ne sont pas dont on a les sources, dont on peut tirer justement, enfin si elles ont des failles ou des défauts, dont on peut tirer parti en évitant évidemment de les reproduire, et on a accès à tout ça. Donc ça amène aussi justement à parler aussi justement pour une entreprise, justement qu'est-ce que ça peut apporter de s'engager dans un développement de logiciels libres, et surtout qu'est-ce que ça peut apporter à ses utilisateurs, hein, puisqu'on a vu un petit peu l'angle qu'est-ce que ça va apporter en termes d'usage dans l'entreprise, le fait justement de rentrer dans un projet de logiciel libre. Comment l'entreprise qui au départ est client peut devenir acteur en fait aussi elle du développement. Alors ça justement là je sais pas, je pense que peut-être Jérémy tu avais des choses, tout à l'heure tu as évoqué ça très rapidement dans ta brève présentation, donc profite un peu de l'occasion limite pour prendre un cas concret par rapport à un cas qui s'est présenté devant toi.
Allons-y. Comment devenir un acteur concret plus qu'un simple utilisateur? Alors déjà, moi je pense que toutes les entreprises qui vont être appelées à utiliser du logiciel libre ne vont pas nécessairement devenir acteurs des projets, des logiciels qu'elles vont utiliser. Déjà, je pense que c'est une minorité qui va peut-être, en fin de compte, devenir active sur le développement des logiciels qu'elle utilise. Peut-être que le cas doit être réservé à des grosses entreprises, ou alors à des entreprises qui ont une certaine quantité de ressources à assigner sur des projets précis. On pense à Free, qui a chez eux, ils ont deux développeurs de vidéo LAN qui sont salariés chez eux pour faire avancer ce projet de diffusion et de lecture de vidéos qui est au cœur de leur système Freebox. Donc bon, je pense que c'est pas toutes les entreprises qui vont payer de leurs développeurs pour bosser sur un projet externe. Et là, ta question, Thomas, rejoint quelque chose qui est au cœur de mes réflexions sur l'écosystème, j'y reviens, du logiciel libre, où je pense que la seule façon de contribuer à un projet n'est pas nécessairement le code. J'en suis même convaincu. Le code est souvent une ressource abondante au sein des projets de logiciel libre. Il y a souvent beaucoup de développeurs, bon, on va pas exagérer non plus, parce que ça court pas les rues non plus des développeurs qui savent pas trop quoi faire de leur journée et qui pourraient rejoindre tel ou tel projet, mais en général, il y a des codeurs, il y a des programmeurs. En revanche, il y a énormément de rôles, de fonctions qui sont soit sous-estimés dans les projets, soit même pas du tout envisagés, et par lesquels, à mon sens, encore une fois, on peut apporter beaucoup à des projets de logiciels libres. Alors je pense spécifiquement à du feedback, à du retour, du rapport de bug, et tout simplement, après des mois d'utilisation intensive, envoyer un mail sur la mailing list du projet en leur disant « voilà, votre logiciel, il est très bien, mais il fait ceci comme ça, alors qu'il pourrait faire cela comme ci, quand on fait tel type de manipulation, il se passe ceci ». En regardant vite fait, il semblerait que ça se passe à tel endroit du code source. On n'a pas nécessairement le temps de corriger ou quoi, mais allez jeter un œil. Souvent, ce genre de commentaire est très apprécié des équipes de développement, parce que soit ils n'ont pas le recul nécessaire pour faire les tests de leur programme correctement, soit ils n'ont juste pas vu ce que vous pouvez voir avec un œil neuf. Donc cette activité de feedback est à mon avis très précieuse et peut être apportée par des entreprises utilisatrices et pas nécessairement prêtes à développer sur les logiciels libres, aussi bien que des activités de documentation, on en parlait tout à l'heure, de coups de main pour des éléments graphiques, d'éléments d'appréciation sur l'interface, sur le confort d'utilisation. Souvent, les programmeurs s'éclatent en faisant du code, mais pas des interfaces. Et souvent, quand ils connaissent le code, l'interface, ils s'en fichent. Ou ils la voient de l'angle de quelqu'un qui connaît déjà toutes les fonctionnalités du logiciel, mais qui ne va pas voir aller découvrir par le petit bout de la lorgnette. Donc, apporter ce genre de compétences à des projets de logiciels libres est, à mon sens, quelque chose de très précieux, et dont les projets sont soit demandeurs, soit ils ne sont pas demandeurs parce qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils ont ce besoin-là, mais en général sont très très bien acceptés. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question ?
Oui, moi ça répond à ma question, mais je pensais aussi comment on a une tendance à créer quelque chose qui a beaucoup plus de souplesse et donner aussi peut-être beaucoup plus de souplesse au développement et donc à l'intégration, disons, des utilisateurs dans le cadre du développement. Mais je ne sais pas, peut-être c'est pas forcément vrai dans tous les cas, mais je pensais notamment pour des applications, disons, métiers dans l'entreprise. Bien souvent, enfin, quand on a l'intégration de solutions propriétaires, on avait beaucoup moins de souplesse dans la manière de l'inscrire, si tu veux, d'inscrire l'utilisateur dans le système. Alors que là, finalement, comme on travaille beaucoup plus sur des sources, on a beaucoup plus finalement la possibilité de modeler l'application pour en faire quelque chose de plus proche des besoins de l'entreprise et de ses employés salariés. Alors, je sais pas, est-ce que c'est ce que je pensais justement des cas comme on voit des ministères qui s'équipent. On peut imaginer que le passage d'un ministère du type ministère des Finances à des solutions type OpenOffice, etc., c'est pas simplement installer OpenOffice sur les postes clients dans l'entreprise. C'est un peu plus que ça quand même.
Alors, le cas du ministère des Finances n'est peut-être pas le meilleur, puisque en tout cas, dans le cas d'Open Office, pour eux, c'est une contrainte économique qui a vraiment derrière ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir envie de développer un logiciel libre dans une entreprise cliente, ça vient d'un besoin d'avoir quelque chose qu'on puisse s'approprier. Il est vrai qu'il y a un petit dicton dans le monde propriétaire qui dit que lorsqu'on installe SAP, qui est un gros applicatif de gestion chez un client, en fait, on adapte les habitudes du client à la configuration de SAP et pas la configuration de SAP aux habitudes du client, ce qui est quand même un petit peu dommage. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le choix, et là j'ai un cas concret, il y a bientôt 2 ans, on a eu l'occasion de développer pour le CNRS un applicatif de supervision. Donc la supervision système et réseau, c'est savoir si mes serveurs se portent bien, tournent bien, et si mes équipements réseau font de même. Ils avaient des solutions propriétaires à leur portée qui ne répondaient absolument pas à leurs besoins, et aujourd'hui il était plus simple pour eux et plus pratique pour les habitudes de leurs utilisateurs de faire développer une interface complète en logiciel libre qu'on a réalisé, qui aujourd'hui est un logiciel libre à part entière, qui a été utilisé pour d'autres clients, etc., etc. Sur lequel on a avancé avec eux comme un projet de développement classique, en le spécifiant, en développant, en le recettant. Mais on est allé beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, ils font partie des membres actifs de la petite communauté qui a tendance à se créer autour de ce logiciel. Et puis, ils continuent de nous alimenter en bug report, nous alimenter en demande de fonctionnalités, que ce soit contractuelles ou non. Et puis, comme on a réussi à réunir quelques clients autour de cette interface un petit peu au début, qui était développée un peu pour eux, puis finalement voir que ces besoins, ils étaient assez génériques et correspondaient bien à plusieurs types de clients qui n'avaient pas trouvé des interfaces de ce type-là dans le monde propriétaire, on a réussi à avoir un pool de clients qui interagit autour de ce logiciel, qui nous demande régulièrement comment ça avance, d'intégrer la prochaine version, etc., etc. Donc oui, le fait de se lancer lorsqu'on est une entreprise cliente dans un développement de logiciel libre, c'est faire le choix d'avoir quelque chose qui soit vraiment approprié à son activité, soit à son métier, soit à ses habitudes.
J'aimerais savoir justement s'il y a des réactions dans la salle, des demandes un peu plus particulières sur ce sujet.
Ça pourrait embarrasser une société de payer pour un logiciel qui sera remis à disposition, entre autres, de ses concurrents. Donc, est-ce qu'il arrive que des sociétés, même concurrentes, s'associent pour payer un développement ? C'est peut-être une question idiote, j'en sais rien.
Je pense qu'on est toujours dans la même problématique. Ça dépend si vous êtes sur une application qui peut être stratégique pour vous, mais ou non, vous voyez, si vous n'allez pas vous associer. Alors, moi, j'ai travaillé dans mon ancienne société avant de fonder Diemark sur ce qu'on appelle la coopétition. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, sur des très gros projets, surtout sur de l'innovant, ce qu'on appelle en fait des technologies émergentes et innovantes, sur lesquelles il va y avoir des millions d'euros, des fois d'investis, les sociétés sont un peu frileuses. Donc elles vont se dire, on va faire des partenariats sur tout ce qui est recherche et développement. Et là, donc, tout le monde développe ensemble, met au pot. Et après, qu'est-ce qui va faire la différence ? Ça sera le marketing et le commercial. Donc ça, ce sont des moyens qui sont apparus il y a maintenant, enfin, les premiers modèles de coopétition sont à peu près de 98, donc vous voyez, qui sont très, vous pouvez coopérer, et après, parce que suivant comment vous communiquez aussi sur, quand on voit Free, par exemple, c'est un modèle, il innove, il a innové à la fois sur la Freebox, mais il innove aussi dans sa communication. Si vous regardez à l'heure actuelle, il communique très très peu et il utilise énormément en fait du buzz marketing, ce qu'on appelle, vous voyez, de la communication de bouche à oreille sur le net. Alors que ses concurrents, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous matraquent en fait de pub. Donc vous voyez, c'est là où vous pouvez être aussi innovant, vous pouvez utiliser du logiciel libre. Vous allez faire la différence au départ, mais si vous continuez toujours à innover sur toute la chaîne, vous restez en fait le leader sur votre domaine. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. C'est des aspects plus stratégiques, mais qui peuvent être importantes pour les sociétés.
Justement, vous parliez de Free et vous disiez qu'il ne communiquait pas beaucoup. Est-ce que pour une entreprise, elle peut justement communiquer sur le fait qu'elle fait du logiciel libre ? Dire par exemple Free, on n'entend pas notre Freebox, il y a du libre dedans, enfin à part ceux qui le recherchent un peu, mais si on demande à des utilisateurs de base, ils savent pas que c'est du logiciel libre. Est-ce que pour Free, ça peut être un avantage justement aussi de communiquer là-dessus, de dire nous on utilise du libre, on participe au libre?
Peut-être que, enfin, je sais pas, après on verra ce que. Mais Free, on est tout de même sur ce qu'on appelle du consumer en cible. C'est-à-dire, en fait, vous n'êtes pas tourné dans le monde de l'entreprise. Et le logiciel libre, bon, ça reste encore, si vous voulez, si vous êtes sur une population non technique, les gens ne savent pas toujours ce que c'est qu'un logiciel libre. Et c'est là où il y a de l'éducation, on va dire, à faire. Donc c'est pour ça que Free, vu sa cible, étant une cible en définitive, enfin une cible assez large, puisque ça cible en fait tous les gens qui vont s'équiper en Internet, s'ils souhaitent en fait communiquer sur le fait que la Freebox est faite à partir et sous du noyau libre, hein, bien sûr, peut-être que tous les gens, vous voyez, sur une communication grand public ne comprendraient pas exactement ce qui... c'est pareil si vous recevez... si vous êtes sur Club Internet, on va dire, Club Internet a aussi est aussi en GPL, mais qui sait, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Donc, on va dire, là, on est sur des approches grand public. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une GPL derrière? Qu'est-ce que c'est qu'une licence GPL? Et c'est là où le libre a besoin, en fait, c'est évident, de communiquer. Enfin,
oui, je suis assez d'accord avec cette vision du marché qui est de toute façon segmentée entre les consommateurs d'un côté et les professionnels de l'autre. Il faut voir qu'en termes de marketing, il commence à apparaître un vague facteur sympathie en fait chez certaines communautés un petit peu avides de nouvelles technologies. Et à ce titre, sur le site de Free, depuis qu'il a été redesigné il y a quelques mois, en bas de toutes les pages, vous pouvez apercevoir le petit manchot qui figure le noyau Linux, donc sur toutes les pages de Free. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas par hasard qu'ils mettent ça ici. Le petit manchot, tout le monde le trouve très très mignon, et donc soit on connaît pas et on voit juste qu'il y a un petit manchot mignon, ah oui j'ai déjà vu ça quelque part, ça doit être Linux, soit les fous de logiciels libres tombent dessus et se disent ah c'est des gens bien, ils mettent le petit manchot en bas. Donc je pense qu'il y a un petit facteur sympathie, mais bon c'est sans doute assez négligeable, qu'il peut y avoir autour du manchot en particulier. Et je pense par ailleurs dans d'autres domaines, on peut envisager de voir des sociétés qui utiliseraient le libre comme un avantage concurrentiel. Je pense récemment, je me souviens plus le nom de ce logiciel de dessin vectoriel qui avait l'air assez extraordinaire.
Blender.
Non, dessin vectoriel. Inkscape. Ceux-là, je les connais, je les apprécie beaucoup. Non, c'est un logiciel propriétaire. Hein. Le dessin vectoriel qui était très très utilisé par une toute petite communauté d'utilisateurs. Le truc était en train de se faire bouffer par des illustrators, et il y a Inkscape justement qui pointait le bout de son nez, qui commençait à être de plus en plus utilisé, et l'éditeur de ce logiciel a fait le choix de l'ouvrir, de le libérer et diffuser ses sources. Et c'est une espèce de coup de poker qu'ils sont en train de jouer en disant voilà, si notre petite communauté d'utilisateurs s'intéresse au projet, elle reprend pour elle, elle fait évoluer, à ce moment-là, on va peut-être survivre face à Illustrator, face à Inkscape. Donc le libre pourrait être une façon pour des petits acteurs d'agréger autour de leur projet des ressources suffisantes pour entrer en compétition avec d'autres acteurs. Il avait un passé propriétaire, Blender ?
Ouais, Blender, c'est un tout petit peu différent, parce que Blender, il y avait quand même un esprit de liberté dès le départ, enfin qui avait été pensé dès le départ. C'était quand même un logiciel propriétaire, il n'était pas entièrement libre dès le départ, mais il y avait quand même une partie qui était, disons, en téléchargement gratuit. Et en fait, après, ce que tu achetais, c'était les plugins. Hein, et c'était donc un modèle qui les plugins servant à payer le développement de la base. Et puis au bout d'un moment, d'un certain temps, les plugins passaient dans le domaine public, enfin je sais pas trop comment appeler ça, enfin du freeware, hein, qui n'est pas du logiciel libre, jusqu'à ce que la société finisse par complètement capoter. Et à ce moment-là, donc, ils ont fait un appel à souscription pour racheter la faillite et libérer les sources. Donc c'est un peu comme ça que ce logiciel est devenu libre. En fait, ils étaient très novateurs, ils sont peut-être allés un peu vite sur une niche qui était quand même très 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 pointue, celle des environnements 3D et des logiciels 3D. Quand on voit le prix de ces logiciels-là dans le domaine propriétaire et des équivalents dans le domaine propriétaire, c'est même étonnant de pouvoir voir un logiciel libre aussi poussé, aussi puissant. Je pense qu'il y a d'ailleurs finalement relativement peu de gens qui en connaissent tous les secrets. Alors il y a un film, oui, qui est sorti, qui a été... alors comment il s'appelle ce film ? Events. Ah, Elephant's Dreams, ouais. Film qui est donc qui est développé donc toutes les sources sont en GPL. Donc en fait, quand vous achetez le film, on vous livre le. Pour l'instant, le film est vendu en DVD ou projeté dans des salles. Hein, c'est un court métrage. Donc et le mode de financement qui a été mis au point, c'est-à-dire qu'on vend un DVD, donc on vend ce DVD, mais dans ce DVD, il contient le film et en même temps toutes les sources du film. C'est-à-dire que vous pouvez après ça, vous achetez une base d'images de Blender, hein, et d'autres logiciels qui sont tous des logiciels libres, et donc à partir de ces sources, vous pouvez retravailler des séquences d'animation, des choses comme ça. Voilà, c'est un nouveau modèle de production. C'est pour l'instant une toute première, hein, puisque le film est sorti, je sais plus, au mois de mars, hein, c'est ça, enfin quelque chose comme ça. Enfin, je me trompe peut-être, mais enfin il y a très peu de temps, en 2006 en tout cas. Voilà, d'autres questions d'autres réactions.
Je ne sais pas si vous en avez parlé, je ne suis pas arrivé au début. Ma question était un peu par rapport à l'actualité des lois, notamment quand on menace les développeurs développent des logiciels d'échange de fichiers. J'aurais aimé avoir un peu vos réactions sur la relation entre la cryptographie et le libre, entre le libre et le législatif. Je vais être un peu vague dans un peu trop général, mais peut-être que vous pouvez préciser selon l'envie de ce que vous avez à dire dessus.
Vaste sujet. Je pensais qu'on allait tour à tour décrire nos métiers dans le cadre de cette table ronde, mais bon, apparemment, on saute de sujet en sujet, ce n'est pas pour me déplaire. Mais j'avais l'intention de vous expliquer comment, dans mon activité personnelle, en fait, j'utilisais mon activité professionnelle d'indépendant sur des missions ponctuelles au coup par coup pour me permettre justement par ailleurs de financer une activité bénévole, militante au sein d'associations comme l'April dont je suis administrateur ou d'initiatives comme ECD.info avec qui j'ai pas mal travaillé au cours de ces derniers mois. Donc justement au plus près de cette loi droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. Et ça va pas être simple de répondre à la question parce qu'elle est déjà encore en suspens vu qu'on attend soit une très très hypothétique seconde lecture, soit une commission mixte paritaire. Mais je pense que si fondamentalement sur le principe passer des lois qui responsabilisent les auteurs de logiciels pour des actes commis par des tiers est quelque chose d'absurde, il est au moins aussi absurde de penser que passer une loi en France aura de l'influence sur l'écosystème du logiciel libre et sur la façon dont ils sont diffusés au travers d'Internet. Si vous êtes développeur vous-même d'un logiciel de peer-to-peer qui serait concerné par cette loi d'ATSI, il vous suffira de trouver une plateforme d'hébergement en Belgique, au Guatemala ou au Cameroun pour contrevenir aux nuisances de la loi d'ATSI. Donc je pense que c'est surtout sur le principe d'une loi écrite pour pour servir les intérêts économiques de certains qu'on a pu s'élever, mais qu'en pratique, ça risque de ne pas changer grand-chose. Après, il y aura des traités internationaux, MPI, d'autres directives européennes qui sont déjà dans les cartons, mais bon, c'est un autre sujet que celui qui nous réunit ce soir. Je vous invite à venir en discuter après la session.
Je voudrais reposer la question en termes plus techniques alors, dans la relation que peuvent avoir le libre et la cryptographie, puisque c'était en fait l'enjeu est technique, technique là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin finalement que les citoyens s'approprient véritablement, est-ce qu'il n'y a pas une course à la cryptographie, de savoir qui Qui la maîtrise? Est-ce qu'il y a là un enjeu qui vous semble important? Il me semble que la communauté du libre a été assez... assez en pointe là-dessus. Il me semble que GPG, enfin que les clés cryptage, notamment, qui ont été beaucoup utilisés par les mails pour s'assurer que les codes sources soient bien ceux qui avaient été produits. Enfin, donc il me semble que le sujet avait été naturellement perçu et traité par la communauté. Est-ce que maintenant il y a besoin de ce que ça se répande plus? Est-ce que c'est urgent?
Là encore, une question un petit peu piège. Mon avis personnel est qu'il y a un besoin d'éducation des utilisateurs qui va bien au-delà de ces questions-là, mais qui les inclut évidemment sur la sécurité des données personnelles, sur la sécurité informatique en général. On ne conçoit pas que l'on puisse conduire une voiture sans avoir eu 20 heures de cours de conduite avec un professeur et un examen qui valide la connaissance d'un code de la route. Il ne me semblerait pas tout à fait inenvisageable qu'on rende obligatoire des cours, sinon de citoyenneté du réseau, au moins de bons usages sur ce qui fait les relations entre individus sur le réseau. À titre personnel, toujours, je pense que la généralisation de l'utilisation de la signature électronique et des procédés cryptographiques qui sont rattachés, notamment dans GPG, est quelque chose de fondamental, qui a d'ailleurs été validé par la loi il y a quelques années dans la LCEN, où une signature électronique équivaut aujourd'hui à une signature sur du papier, pour peu que la clé publique ait été déposée à un PKI, un organisme certificateur agréé par l'État. Mais il n'y a pas aujourd'hui de tels organismes. Donc il y a un besoin et d'éducation des utilisateurs et des citoyens, et peut-être un travail de fond à faire auprès des collectivités locales et territoriales. Et c'est vrai que je ne sais pas, dans le paysage, en tout cas dans le paysage associatif autour du libre aujourd'hui, quel acteur remplirait ces missions-là, sinon peut-être l'ADULACT, mais je ne suis pas sûr qu'il soit en pointe en termes de cryptographie. À noter quand même que le DCSSI, qui est la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information de la Direction Générale, DGN, non, SGDN, le Secrétariat Général de la Défense Nationale, donc rattaché au cabinet du Premier ministre, qui est une entité de l'armée chargée de certifier les solutions de cryptographie et de faire de la veille en termes de cryptographie, a certifié GPG, donc dans les standards administratifs de l'administration française, suite à des démarches de la Free Software Foundation France, menée par son membre éminent Loïc Dachary, il y a cela 4 ou 5 ans. Et donc, en tout cas sur cette initiative-là, une initiative a été prise pour certifier les outils libres auprès des instances de l'État. Après, il reste énormément de boulot, je pense.
Alors,
on s'éloigne du sujet un petit peu. Est-ce que tu nous conseillerais Il m'a semblé que tu as dit qu'il n'y avait pas encore de PKI vraiment reconnu.
Officiel, oui.
Est-ce que tu nous en conseillerais un? Est-ce qu'il y en a qui seraient estampillés libres quelque part ou...
J'en ai pas la moindre idée.
Ouais. Ça ne pourrait pas être pris en charge par une asso, par exemple, une des assos du libre, de se faire reconnaître comme dépositaire de clés?
On en est à parler là des métiers du logiciel libre.
Oui, c'est hors sujet en plus.
Non, c'est oui et non, pour te dire que mon métier à moi n'est pas exclusivement la sécurité des systèmes d'information, bien que c'est un paramètre à prendre en compte un petit peu dans tous les métiers quand tu veux avoir l'air un petit peu sérieux avec tes clients. Mais je pense que spécifiquement la gestion d'un PKI, oui, la gestion d'un PKI implique des dispositions relatives à la sécurité très importantes. Et on ne gère pas un PKI comme on gère un serveur web comme ça sur un coin d'Internet. Il faut une sécurité très 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 élevée, avec beaucoup de procédures de vérification. Je ne suis pas sûr qu'une association ait des ressources à mettre là-dessus. Peut-être voir avec les tarés d'OpenBSD, qui sont des fous de sécurité par nature, s'ils n'ont pas l'intention de faire quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Alors malgré tout, aujourd'hui, il y a des choses qui frémissent un petit peu au niveau du gouvernement, puisque de toute façon, à mon avis, une, une PKI aussi importante peut être que une entité, enfin, il peut y avoir qu'une entité gouvernementale derrière. Aujourd'hui, il y a déjà des briques qui commencent à exister, puisque lorsqu'on télédéclare en ligne son impôt, on est lié à une PKI qui est absolument monstrueuse et qui peut délivrer des certificats pour virtuellement tous les Français. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'impôt sur le revenu, c'est assez spécifique. C'est implémenté uniquement au ministère des Finances. Par contre, le ministère de l'Intérieur s'y intéresse de très près et voudrait mutualiser des efforts de développement avec le ministère des Finances pour faire en sorte qu'il y ait une PKI gouvernementale qui soit mise en place, qui puisse délivrer effectivement un certificat à vie pour chaque citoyen qui serait déposé sur la prochaine carte d'identité électronique et qui lui servirait aussi bien à déposer ses impôts qu'aller à la Sécu, qu'à faire toutes ces démarches administratives publiques. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont dans les cartons, qui sont poussées très fort par certaines instances gouvernementales et certains ministres. Et moyennant le fait que ça va coûter très cher et que les projets vont durer très longtemps, on peut espérer les voir poindre leur bout de leur nez d'ici 5 ans. Quelque chose comme ça. Bah, à mon avis, pas avant. C'est beaucoup trop gros.
Pour rapprocher ça justement un peu au métier du logiciel libre, le gouvernement envisage évidemment qu'il y ait une transparence totale là-dessus et sur, une solution justement de PKI qui soit ouverte sur le logiciel libre.
Aujourd'hui, la PKI du ministère des Finances, elle est faite à base de logiciels libres. Il y a une bonne dizaine d'acteurs du marché qui interviennent dessus, que ce soit des Steria, des HP, des IBM, des Linagora, des CAP, des quoi que ce soit, qui interviennent sur l'implémentation de la PKI, ses interfaces d'accès pour les citoyens, enfin l'ensemble des briques. Mais c'est essentiellement du logiciel libre. Pas exclusivement, parce qu'il reste toujours quelques frontaux qui sont pas systématiquement libres, il reste toujours quelques process qui ont été faits par une société qui fait pas de logiciel libre. Mais aujourd'hui, c'est basé sur des briques libres en grande majorité.
Oui, avec les déboires de Mandriva, comment ça se passe quand une SS2L installe une distribution pour un client? Est-ce que c'est considéré comme du libre ou est-ce qu'il reverse une partie à une société genre Mandriva ou Red Hat? Parce que sinon, à terme, s'il n'y a pas de financement sur les distributions, il n'y aura plus de version N plus 1 des distributions ou même de certains logiciels.
Alors, dans les métiers du logiciel libre, le métier d'éditeur, l'éditeur de distribution, qui est assez spécifique. Aujourd'hui, c'est quoi l'existant d'Inagora ou le quotidien, la réalité des choses? C'est que la plupart de nos clients achètent des machines de constructeurs, parce que c'est des grands comptes. Donc ils vont acheter du Dell, du HP, du IBM, des machines sur lesquelles on va trouver du Red Hat, du SUSE, parfois dans des cas extrêmement rares de la Debian. Et en tout cas, pour l'instant, peu de Mandriva, parce que Mandriva, c'est un acteur qui est encore très local, et qui se développe peu, en tout cas qui développe peu de partenariats avec ce genre de constructeur. Donc aujourd'hui, lorsqu'un de mes clients prend une machine Dell et qu'il a de la Red Hat dessus, il a intrinsèquement payé une licence Red Hat. Donc le problème ne se pose pas. Aujourd'hui, le problème se pose lorsque j'ai un client qui prend des machines nues chez le même constructeur, il peut le faire, ou prend des machines d'intégrateur de quartier, on va dire. Souvent, c'est de la machine de constructeur demandée nue. Là-dessus, il peut mettre ce qu'il veut. Ça peut être à nouveau une Red Hat qu'il aura acheté par ses propres moyens, ou ça peut être quelque chose de complètement différent sur lequel il nous laisse la main, auquel cas, ça pourra être fréquemment de la Debian. Et sur la Debian, on est sur une initiative purement purement bénévole, donc il n'y a pas de licence ou quoi que ce soit. Alors, en quoi les SS2L jouent leur jeu par rapport à Debian? C'est que les SS2L, souvent, elles embauchent des gens qui sont aussi des développeurs Debian et qui... un petit peu sur leur temps de travail malgré tout, vont contribuer au projet Debian, et ce qui va faire un petit peu avancer les choses. Dans le cas de Mandriva, et dans le cas aussi de Red Hat tout de suite, aujourd'hui, c'est des sociétés qui ont pris un grand virage, qui est de se dire, quelque chose qui avait été brandi dans le monde du libre depuis déjà quelques années, c'est que un pur distributeur ne peut pas, à notre sens en tout cas, avoir une pérennité énorme dans le monde du libre. Parce qu'aujourd'hui, vendre du logiciel libre, je fais un raccourci énorme et un abus de langage assez énorme aussi, ça peut pas être pérenne. Aujourd'hui, des sociétés comme Red Hat ou SUSE, comment elles tiennent? à part le fait qu'elles ont des bons contrats de partenariat et un gros marché, c'est qu'elles ont aussi pris le virage du service et qu'elles font des services à valeur ajoutée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils deviennent rentables et ne font non plus affaire appel à des investisseurs ou des particuliers ou ce genre de choses. Et Mandriva, aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'ils cherchent à passer ce cap-là, et c'est en y arrivant qu'ils vont rentabiliser, je pense, une activité au-delà du fait de simplement vendre des boîtes à la FNAC.
Mais s'ils développent du service, ils vont vous concurrencer, vous, alors ?
Il y a de la place sur le marché.
Oui,
Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs centaines d'acteurs qui revendiquent le nom SS2L, qui sont généralistes ou pas, qui interviennent sur des domaines purement intégration, développement web, etc. Et il y a de la place pour tout le monde. On retrouve fréquemment sur les appels d'offres où sont attendus des logiciels libres, 5 ou 6 sociétés, à chaque fois un panel complètement différent, suivant le domaine en question, qui se retrouve, qui rentre en compétition, et le meilleur est élu à chaque fois. Mais y a vraiment, le marché du libre est encore beaucoup plus important que ce que les SS2L peuvent couvrir au jour d'aujourd'hui.
Je suis tout à fait d'accord avec Laurent, et je pense que justement cet exemple de Mandriva et d'autres qui pendant longtemps ont cherché un modèle économique autour du libre est plein d'enseignements, parce que clairement le modèle de la vente de boîtes de logiciels libres à la FNAC ou ailleurs, ça ne marche pas, et ça nous permet de peut-être un petit peu de réfléchir sur l'évolution de notre économie, de la société en général, à partir du moment où on entre de plein pied dans ces fameuses sociétés de l'information, où c'est plus des biens matériels que l'on vend, mais bien de la connaissance, donc de l'information traitée qui devient de la connaissance. Et donc la façon de vendre de la connaissance, c'est par la prestation de services, et des services, il y en a autant qu'on peut en imaginer, voire même beaucoup plus. Donc il y a les services qu'on a évoqués là, qui sont typiquement ceux des sociétés de services, qui sont de l'intégration, des développements spécifiques, de la formation, mais il y a aussi énormément de services qui peuvent être spécifiques à un éditeur qui connaîtrait mieux que n'importe qui d'autre son logiciel. Mandrake pourrait très bien faire de la prestation de services pour livrer des distributions sur mesure avec je ne sais pas, des logos particuliers pour le client, ou des mécanismes qui feraient qu'il n'installerait que tel et tel logiciel, ou des live CD sur mesure pour des cybercafés faits à partir de ces ressources et de ces briques qui sont celles de Mandriva. Ou bien, ils ont tenté le coup, je crois que ça n'a pas été très fructueux, mais des memberships, des cartes de membres, si j'ose dire, ou en tout cas des accès à des réseaux privilégiés de clients gold et platinum et qui ont accès à plus d'informations, à plus de choses plus vite et à des services spécifiques. Donc je suis persuadé que Mandriva peut se trouver des services qui lui seraient spécifiques, tout en laissant le champ parfaitement libre à tout le monde.
C'est peut-être ce qui est intéressant dans le libre, c'est que la relation client-fournisseur est différente, quoi. Comme vous avez vos codes sources qui sont ouverts, si vous n'êtes pas content de votre SSL, on va dire, vous pouvez aller voir ailleurs.
Tout à fait.
Et donc c'est motivant aussi quand on est en fait acteur du libre, puisqu'on va être le meilleur pour son client. En fait.
Ça pousse à l'excellence, tout à fait.
Voilà, c'est ça.
Mais pour finir sur Mandriva et ne pas non plus avoir des échos alarmistes, Mandriva a aussi des très très bons clients. J'étais encore hier en communication avec le ministère de la Culture, et 90% de leurs serveurs sont en Mandriva. Donc malgré tout, on a une belle implantation dans le gouvernement français en tout cas, et dans les administrations publiques, de serveurs sous Mandriva.
Pour continuer un petit peu sur cette notion de la vastesse du marché pour des acteurs dans l'économie du service. Voilà. Merci. Oui, voilà. Pour montrer justement combien chacun a sa place sur ce marché, et combien à mon avis il reste énormément de place et de segments à conquérir, et c'est justement je pense emblématique ici, parce qu'on a une table Inagora qui est considérée comme un assez gros acteur des sociétés de services en logiciel libre, qui est en train de le devenir, Et puis il y a un petit gars comme moi qui est indépendant, qui génère un chiffre d'affaires qui serait considéré comme parfaitement négligeable par n'importe quelle entreprise digne de ce nom. Et quelque chose que j'envisage tout à fait, très très modestement, on dit assez régulièrement, mais bon, c'est pas nécessairement suivi d'effet, que dans notre économie, dans notre système éducatif en général, on a tendance à dévaloriser depuis quelques années les métiers manuels. On paraît qu'on manque de plombiers, qu'on manque d'électriciens, on nous parle du plombier polonais. Il paraît qu'on manque cruellement de ces métiers à faible qualification. Pour moi, il n'est pas du tout inenvisageable, au même titre que personne ne trouve choquant lorsqu'il a un tuyau qui éclate d'appeler un plombier, il n'est pas inenvisageable d'avoir une économie très très localisée de sorte de plombier informatique qui serait un petit gars calé du coin qui, à l'échelle d'un pâté de maison ou d'une rue, irait faire à domicile du service de dépannage, de customisation, de la micro-prestation de services locales, qui serait absolument pas en concurrence avec une société comme l'Inagora. On parlait tout à l'heure d'avoir le même confort avec le logiciel libre qu'avec le logiciel propriétaire. Moi, je suis intimement persuadé qu'on peut obtenir un confort supérieur, mais au prix d'un effort qui est lui aussi supérieur à ce que l'on doit fournir avec un logiciel propriétaire. Et c'est spécifiquement dans la fourniture de cet effort qui découle d'une analyse de besoins qui est celle préalable à toute gestion de projet digne de ce nom, que se trouve une infinité de possibilités, de besoins et d'ouvertures. Et voilà, je prêche pour cette relocalisation de l'économie que permet le logiciel libre, parce que plutôt que vendre à 1000 personnes 1000 licences d'un Windows XP, on va peut-être vendre à 100 fois 10 personnes une prestation de service d'un petit gars du coin qui va faire sa distribution adaptée d'Ubuntu, mais spécifique à la navigation sur le web et à la bureautique et à 2-3 jeux pour les gamins et à un login avec tout écrit très gros pour la grand-mère qui voit plus très bien. Et donc je pense qu'on a clairement la possibilité de mettre en œuvre ces nouveaux métiers de proximité.
Oui, alors on va peut-être pas très tarder à conclure, mais je voulais savoir justement, enfin, j'ai trouvé l'ouverture intéressante, hein, parce que justement elle rapproche, enfin on est parti pendant un long moment à parler plus de l'aspect métier et de l'implantation des logiciels libres dans l'entreprise, etc. Mais aussi, enfin, on est arrivé à une maturité de logiciels libres maintenant qui dépasse le monde de l'entreprise et qui vont justement atteindre la sphère du grand public, disons quoi. C'est-à-dire on a parlé, hein, de OpenOffice, on a parlé de Firefox, on a parlé aussi de distribution même complète basée sur le noyau Linux qui fonctionne. Maintenant à peu près convenablement pour tous les usages habituels, quoi, de à la fois bureautique, multimédia et autres. Justement, est-ce qu'il y a, et il y a donc, je pense qu'on est d'une certaine manière dans l'informatique grand public, dans les balbutiements un peu du logiciel libre, hein, c'est pas, on est arrivé à un niveau de maturité où ça commence à pénétrer, mais on n'en est aussi qu'au début. Et justement, quels sont un peu aussi les modèles de développement? Alors, t'as parlé un peu du plombier informaticien, mais est-ce que vous avez, vous, en perspective, justement, quelques idées de prospective du développement du logiciel libre vers la communauté grand public, quoi?
Moi, c'est vrai, pas que Diane. C'est un peu plus difficile parce que je suis pas très tournée en fait grand public. En fait, j'ai toujours travaillé en ce qu'on appelle du B2B. Certainement, enfin, on peut penser que les générations de nos enfants qui arrivent, enfin, les enfants utilisent en fait maintenant dans toutes les classes, il y a énormément en fait de PC avec de l'Open Office ou ce genre de choses. Donc, il va y avoir une mutation. On est sur des générations qui arrivent, qui sont tout PC, tout mobile, tout. Maintenant, quels sont les nouveaux services? Ils sont habitués en tous les cas à ce qu'on appelle, en fait, à l'heure actuelle, on est sur les générations low cost. Hein. Donc, c'est vrai que le libre aussi permet des stratégies de coûts bas coûts, quoi. Ça va certainement changer. Maintenant, les nouveaux services qu'il va y avoir Au niveau consumer, là, moi, je laissais mon tour parce que je ne suis pas très tournée grand public.
En fait, nous, on a l'occasion d'attaquer le grand public, mais toujours à travers les entreprises. Alors, bon, quand on dit une entreprise, c'est... quand je parle du ministère des Finances, qui est notre plus gros client, aujourd'hui, c'est quand même la plus grosse entreprise de France, parce que quand on rassemble toutes les directions du ministère des Finances, ça fait environ 160 000 personnes. C'est absolument monstrueux. Et aujourd'hui, lorsqu'il est question de déployer un poste client libre sur un parc de 160 000 clients, on se pose des questions très très importantes de gestion du changement, d'accompagnement des utilisateurs, de formation. Et là, on est vraiment au contact avec des gens qui, chez eux, ont du Microsoft Office sur du Microsoft Windows, qui ont la même plateforme au bureau et ça leur va très bien parce qu'ils ne changent pas leurs habitudes. Et on va révolutionner un petit peu leur quotidien. Et pour certains, ça va marcher jusqu'au point où ils vont aller jusque chez eux à aller installer une distribution Ubuntu ou autre pour continuer à utiliser le logiciel qu'ils ont au bureau. Là, ce sera le cercle vertueux qui se met en place jusqu'au bout. Et pour d'autres, ça va être une fracture complète. Il faudra les accompagner très longtemps avant qu'ils puissent adopter complètement l'outil. Donc nous, c'est un petit peu sur ce prisme-là qu'on voit les utilisateurs grand public, entre guillemets.
Alors, on va finir par quelques questions quand même.
C'était une question dans les entreprises, par exemple. S'il y a deux personnes dans chacun un bureau... un qui travaille sur du propriétaire et l'autre sur du libre, lequel va être le mieux payé? Est-ce que celui du libre, il va pas être moins bien payé que le propriétaire, quoi?
Alors, je sais pas qui veut répondre.
Alors, je pense que ça n'a rien d'évident. Typiquement, nous, lorsqu'on intègre des compétences, comme je disais tout à l'heure, du fait qu'on intègre des informaticiens qui sont allés plus loin que le carcan du monde propriétaire et qui vont aller gratter un peu partout et qui sont parfois juste des administrateurs, mais qui sont quand même allés voir dans des logiciels libres et allés modifier le code de logiciels libres, on a des gens qui sont hautement polyvalents, très autonomes, et du coup qui... je ne sais pas si on peut définir une échelle de valeur sur le monde de l'informatique, mais qui sont souvent plus débrouillards que des gens du monde propriétaire. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui ont une qualité qui fait que parfois, on est amené à mieux les payer que des gens du monde propriétaire.
Voilà. Oui, mais je pense pour répondre aussi à cette question que c'est de toute façon pas sur les outils qu'on va évaluer les compétences de quelqu'un, mais peut-être sur sa capacité à se faire lui-même ses outils, à organiser sa boîte à outils, et peut-être que quelqu'un qui se fera sur mesure son poste de travail et ses scripts et ses raccourcis et ces choses-là arrivera en termes de pure productivité à être plus performant que quelqu'un qui se basera sur des composants standards. Mais c'est un avis comme ça. Ça, c'est un grand problème en France.
Vous avez abordé un petit peu tout à l'heure la communication du libre, et j'ai entendu parler de dommages collatéraux quand on communique sur le libre. C'est-à-dire que certaines entreprises qui ont voulu migrer vers Linux, qui en ont parlé publiquement, et du coup, ils se sont fait inonder de commerciaux propriétaires. Et je voulais savoir si déjà vous avez eu cette expérience-là et comment on résout ce problème-là. Est-ce que le fait de communiquer sur le libre peut avoir un danger pour les entreprises?
Alors, on se souviendra du cas de la ville de Munich qui a eu le tort de dire trop vite qu'il passait sur du libre et qui a eu la visite de Steve Ballmer. Aujourd'hui, on a un petit peu toutes les problématiques qui se rencontrent. On a des sociétés qui ont fini par l'identifier. Font appel à du libre pour faire baisser des coûts de licence propriétaire et conserver du propriétaire. On a des sociétés qui font le chemin pour aller vers du libre, qui sont convaincues qu'ils vont aller vers du libre et qui finalement se font rattraper par le propriétaire à grands coups de marketing, à grands coups de grands dîners entre Steve Ballmer et le PDG ou le président de la société en question. Et on a des sociétés qui veulent rester autonomes, et on en a quelques-unes en France, on en a encore plus en Allemagne depuis l'affaire Munich justement, dont des instances gouvernementales allemandes qui sont en train de migrer des grosses applications vers du libre et qui font ça complètement en sous-marin, Donc aujourd'hui, on le sait parce que les acteurs qui font la migration chez eux nous tiennent au courant. Ça n'est pas forcément sur les forums, ce n'est pas forcément sur Internet. Ça ne doit pas se savoir parce que ils feront l'état des lieux une fois que ça aura été fini et ils ne seront plus ennuyés potentiellement en cours de migration et sollicités pour revenir en arrière. Donc on a un petit peu tous les points de vue qui se mêlent sur ce genre de problématique.
Oui, là encore pour ajouter mon petit grain de sel, je pense que beaucoup de gens ont fait l'erreur de penser que libre voulait dire moins cher. Et que c'est comme ça que beaucoup se sont fait rattraper. Il y a un mémo interne à Microsoft qui est paru, enfin qui a été filtré il y a 3 ou 4 ans, où le commercial en chef disait quand il s'agit de reprendre un marché qui est en passe d'être perdu au profit des logiciels libres et de Linux en particulier, vous pouvez aller jusqu'à 90% de réduction. Donc, aucune offre ne pourra rivaliser avec ça en termes de coût. Mais ce qui est marquant, ce que j'ai trouvé intéressant lorsque j'étais une conférence internationale à La Haye qui est organisée par Flospols, qui est un organisme financé par la Commission européenne, qui est chargé de recenser, de faire un état des lieux du libre dans les différentes institutions gouvernementales. Et il y a eu à ce titre des commentaires, en fait des retours d'expérience d'une région entière d'Espagne, l'Extremadura, entièrement équipée en libre, d'une province italienne, d'un district anglais, etc. Et chaque représentant de chacune de ces institutions où le libre était quand même développé à des échelles assez, assez importantes, à un moment de sa présentation en Impress, j'ai failli dire PowerPoint, nous montrait voilà, quels avaient été les critères déterminants après l'analyse des besoins pour passer au libre. Chez tous, la notion de coût arrivait en troisième, quatrième position, voire même plus loin. Et chez tous, la question de l'indépendance technologique et de la pérennité de l'investissement arrivait avant la question de coût. Donc si on raisonne en termes de coût, les commerciaux vont se ramener. Pour peu qu'on communique dessus, les commerciaux vont se ramener. Le marché va être perdu. Maintenant, si on raisonne en termes de pérennité de l'investissement et d'indépendance technologique, je donne bonne chance aux commerciaux de chez Microsoft.
C'est vrai que l'une des grandes forces du monde propriétaire, c'est dans la partie économique. Parce qu'un logiciel qui est déjà rentabilisé, on peut virtuellement le donner à un client. Pour conserver des parts de marché. Alors qu'une SS2L, typiquement, qui va proposer un projet à un client, paye ses salariés, paye l'ingénieur qui va passer X jours à réaliser ce projet, et donc ne peut pas donner cette même prestation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit décalage à ce niveau-là, mais ce qui est très important, et ce que Jérémy disait, c'est que on a des critères qui parfois surpassent de très loin, et les instances gouvernementales l'ont bien compris, l'enjeu du coût, qui sont donc l'indépendance, qui sont le fait quand on est français, quand on est allemand, est-ce qu'on a plus envie d'aller payer des licences à Microsoft qu'à un éditeur américain, ou est-ce qu'on a plus envie de faire travailler le vivier local d'artisans du libre ou de SS2L qui va réaliser les mêmes projets mais en réinjectant finalement de l'argent dans l'économie locale en faisant vivre des familles locales. Et puis le fait que, en prenant des solutions libres, on respecte les standards, en choisissant aussi des solutions libres pour le fait de récupérer ces données. Aujourd'hui, lorsque j'installe une suite Microsoft et lorsque j'utilise du Word, alors il y a des annonces sur XML, il y a des choses qui bougent, qui reviennent, qui repartent, des brevets qui sont déposés, etc. Malgré tout, sur les dernières versions de Word, mes données sont dans un format que je ne peux pas relire avec autre chose que Word, en théorie. Mes données ne m'appartiennent plus. Et aujourd'hui, certains de nos clients sont farouchement attachés à la propriété de leurs données et au fait qu'elles soient dans un format ouvert qui puisse être pris dans n'importe quelle condition avec n'importe quel logiciel.
Les données, c'est beaucoup plus important en fait au niveau format que même un logiciel. Les outils changeront. Dans 15 ans, vous aurez d'autres outils, mais par contre, vos données, il faut que vous puissiez les relire. Donc c'est certainement la pièce maîtresse. Quand on choisit quelque chose, l'aspect donné est important. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le problème des entreprises, c'est que beaucoup d'entreprises naviguent sur du très court terme. Et sur le libre, on est sur, comme l'ont dit Jérémy Laurent, sur du long terme. C'est des stratégies, en fait, de voir en fait, des maîtrises de coûts et être capable, en définitive, de se dire j'investis et j'investis pas, c'est pas du one shot.
Je voulais savoir si les entreprises du libre, justement, recrutent, et si oui, quel type de profil, quel candidat, quelle formation. J'ai vu qu'il y avait une formation qui avait été créée pour l'année prochaine. Enfin, savoir au niveau de l'emploi, des carrières qui pouvaient exister dans le libre.
Alors, je confirme, les entreprises du libre recrutent. Comme je vous disais, le marché est en explosion. Aujourd'hui, à l'Inagora, on rentre, que ce soit des ingénieurs ou des commerciaux, on a du mal à suivre le marché. Aujourd'hui, on a toujours une grosse partie. Déjà, on ne travaille quasiment que sur de l'appel entrant. Et on a une grosse partie de nos appels entrants qu'on n'arrive pas à gérer. On a vraiment de plus en plus de clients qui souhaitent se mettre au libre. Et il y a plus de demandes que d'offres, quasiment, sur le marché. Aujourd'hui, les profils, bah, ça va être... un petit peu tout ce qu'on peut imaginer, de l'administrateur système et réseau polyvalent, du développeur web, développeur Java, des gens qui connaissent bien la messagerie, des gens qui connaissent bien le groupware, la supervision, les annuaires, ce genre de choses. Et alors par contre, sur la formation, c'est là où j'ai le moins de réponses. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du libre, justement parce que c'est du libre, et justement parce que n'importe qui peut se former au libre, j'ai des ingénieurs Bac plus 5 qui sont moins bons que des autodidactes qui n'ont même pas le bac. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de formation particulière pour arriver dans le monde du libre. Chacun va être jugé à l'aune de ses compétences, et c'est ça qui est le plus important.
En termes de formation, il y a quand même quelques universités qui maintenant se spécialisent un tout petit peu dans le domaine du libre, hein, en formant vraiment du spécifique. Mais en fait, c'est vrai que c'est pour l'instant des cursus qui ont démarré il y a finalement peut-être trop peu de temps pour qu'on en ait... la mesure justement dans des informaticiens seniors quoi, hein. Mais je pense que c'est pas à minimiser dans les cursus de formation, je pense.
À Belfort, dans l'Est de la France, en IUT informatique, c'est quasiment que du Linux, c'est Windows en deuxième année ou au premier semestre, et c'est peut-être 2 mois de Windows quoi. Sinon, c'est de l'Unix et du Linux sur toute la formation sur les 2 ans ou presque.
Oui, de la même manière, il y a certains IUT où il n'y a pratiquement pas de Linux. Mais bon. Mais il y a un commercial de Microsoft qui passe et qui distribue les licences aux étudiants. Donc, il y a aussi des pratiques de ce côté-là. Ah, mais je pense qu'une fois qu'on a mis un peu le doigt dans le logiciel libre, généralement c'est une solution pérenne, donc on va plutôt y rester. Hein, surtout dans le cadre d'une école, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de changer, mais surtout quand le marché s'ouvre. Mais par contre, si vous avez encore c'est-à-dire une question, et puis sinon peut-être une brève conclusion, s'il y en a un qui a envie de rajouter quelque chose, justement peut-être plutôt par rapport à la prospective, par rapport au métier, par rapport à une formation, un conseil à donner.
Moi je pense qu'il y a tout à faire dans tout ce qui est applicatif, aller construire des applicatifs à partir du libre, et puis à terme en fait le mobile qui va s'ouvrir, enfin.
Oui, c'est très vrai. Le libre, on le remarque depuis que l'économie du libre en France a vraiment commencé à décoller, le libre monte les couches. On est parti des couches très basses, on installait des serveurs web, des serveurs DNS, des serveurs de messagerie, donc tout ce qui est vraiment la base de l'infrastructure d'une société. On monte aujourd'hui sur les applications de plus en plus haut niveau, des applications métiers, développement J2E, ce genre de choses, et on arrive sur des problématiques de plus en plus complexes. Encore récemment, on accueillait au sein de l'Inagora certains de nos partenaires qui font de la business intelligence. Aujourd'hui, c'est des choses qui rivalisent avec du business object, des choses très complexes au niveau modèle mathématique, et qui s'appuient exclusivement sur des logiciels libres, des librairies libres et du développement J2E. Donc aujourd'hui, on monte de plus en plus vers de la valeur ajoutée et on quitte de petit à petit le monde de l'infrastructure, puisque finalement, de plus en plus, nos clients savent intégrer des administrateurs en interne qui les développeront sans avoir besoin de société de service ou logiciel libre. Voilà.
Et puis on arrive, c'est du vide. C'est ce qu'on appelle le vide par rapport à un open office où on vient se battre contre un Microsoft avec une conduite du changement. Quand vous arrivez en fait sur des applicatifs comme de la business intelligence où il y a les clients n'ont pas encore l'applicatif et il faut qu'ils choisissent entre du propriétaire et du libre, là vous avez vraiment en fait une chance que le libre soit choisi.
Et effectivement, cette remontée des couches décrite par Laurent correspond aussi peut-être un petit peu à l'historique du logiciel libre, où il y a 20 ans, on a commencé à faire les commandes de base, puis on a fait un début de noyau, on a commencé à faire un ordonnanceur mémoire, une pile réseau, des choses vraiment pas sexy. Et c'est petit à petit, une fois que tous ces outils de base ont commencé à être stables, qu'on a pu se dire, si on faisait un environnement graphique avec des jolies fenêtres, maintenant qu'on a les jolies fenêtres, si on faisait un superbe navigateur web, etc. Donc c'est un cheminement en fait de plus en plus loin, de plus en plus haut, qui, à mon avis, fait également que commencer. Et sinon, pour la prospective un petit peu sur les métiers, comme on a vu que les bons éléments, en tout cas chez l'Inagora, étaient des gens qui multipliaient les compétences. Et comme il faut souvent, pour faire de l'intégration, avoir une connaissance, sinon du métier avec lequel on est en contact, au moins une connaissance du monde de l'entreprise et de ses mécanismes, comme il faut aussi nécessairement avoir une connaissance des licences, peut-être des implications juridiques de l'utilisation de telle et telle licence, mon conseil personnel est de ne pas hésiter à croiser les compétences. Et si vous êtes de souche technicienne ou autodidacte de la technique, ne pas hésiter à aller faire une formation juridique sur les contrats informatiques et le droit de l'informatique, ou alors sur le management, la gestion de projet. Et à mon avis, ça n'en sera que plus utile dans un cursus.
Oui, alors maintenant, je vais peut-être remercier les intervenants, donc Diane Revillard, Jérémy Zimmermann, Laurent Pierre. Remercier aussi l'organisateur qui n'est pas vraiment là, enfin si, qui est représenté par quelques-uns des participants à cette table, qui est donc l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre, hein, qui a donc un peu justement un peu recherché les intervenants, travaillé aussi sur les sujets, et puis remercier le public, les internautes, etc., qui n'étaient pas nombreux ce soir, hein, je vais être honnête, hein. Mais on n'avait pas fait une grande publicité, on n'était pas tout à fait sûr que ça fonctionne, enfin bon, on l'a joué un peu profil bas. En tout cas, merci à vous d'être venus. Et puis pour annoncer un peu sur la même thématique, vous avez donc vu qu'il y avait des programmes donc à l'accueil, hein, donc vous avez tout un cycle de conférences. La prochaine traitera donc de l'aspect logiciel libre dans le domaine de la santé, un petit peu tout ce qui est justement l'interface entre en quoi le logiciel libre peut apporter des solutions dans l'interface entre les médecins, la sécurité sociale et le patient. Donc un peu les problématiques, carte vitale et gestion des informations et des transferts d'informations, et aussi peut-être une notion de sécurité par rapport à ces transferts. Donc ça, ce sera donc mardi prochain. Ensuite, je connaissais plus le programme exactement par cœur, mais on continuera sur justement un peu un cycle, disons, logiciel libre et société, et on ira après ça, on terminera par traiter un peu du logiciel libre et culture, tout en faisant un point d'orgue aussi sur, mais là tout à fait à la fin du mois, sur un aspect aussi qu'il faut aussi prendre en compte et qui est de plus en plus pris en compte, c'est logiciel libre et accessibilité. Justement, enfin, en quoi justement le logiciel libre peut apporter des outils d'accessibilité à des handicapés. Voilà, donc tout ce programme, hein, vous pouvez le prendre à l'accueil. Il est aussi sur le site internet de la Cité, donc n'hésitez pas. Voilà, et merci beaucoup.